Polysécur, épisode technique. Je suis accompagné de Alexandre. Est-ce que ça va?
Écoute, ça va plutôt bien. Fin de journée, on part sur un screencast.
Oui. Donc,
tout devrait bien se passer.
Souhaitons que ça va bien se passer, que le dieu des démos soit avec nous. J'aime bien ton expression. Aujourd'hui, on va faire un peu une suite de ce qu'on a déjà abordé. Cette fois-ci, on va aller sur la démonstration du fonctionnement de Bloodhound, justement pour voir de quoi il est fait. Pour définir les expectatives, on n'ira pas dans un cas d'une démonstration réelle, mais on va vraiment passer à travers l'interface, qu'est-ce qu'il fait et comment il fonctionne, justement pour qu'on puisse s'approprier cet outil-là, justement pour qu'on puisse l'intégrer dans nos interventions quand nécessaire.
Absolument, c'est sûr que c'est un sujet très intéressant d'utiliser Bloodhound dans le cadre d'un test d'intrusion, mais ici on va rester, je veux dire, un petit peu basic sur l'utilisation de Bloodhound. Donc là, je suis dans une Kali à jour. Et donc par défaut, quand on installe Kali, normalement Bloodhound n'est pas installé. Ici, j'ai une version préinstallée que vous pouvez installer avec le gestionnaire de paquets intégré. Donc on voit ici là le Bloodhound. Donc faire un apt install Bloodhound devrait suffire pour installer donc Bloodhound, l'outil qui va être en fait l'interface graphique, et Neo4j qui est la base de données qui va stocker les informations. Pour démarrer la base de données, c'est relativement simple. Pensez juste à faire un sudo, sinon ça ne fonctionne pas. Donc sudo Neo4j start. Hop. Et normalement, on est en business. Ça va prendre quelques secondes. Voilà. Donc là, après, pour lancer notre Bloodhound, juste entrer Bloodhound et l'interface devrait démarrer. Alors juste peut-être une petite information, quand on va l'installer pour la première fois, il va falloir changer le mot de passe. Le mot de passe, pour le changer, cela se fait dans l'interface navigateur. Donc là, si je reviens sur ma fenêtre, on voit ici que l'interface de Neo4j est accessible sur le port 7474. Donc, théoriquement, à la première exécution, vous avez username, password, ça va être Neo4j. Ils vont demander à ce qu'on change ce mot de passe. Là, je peux juste rapidement le montrer à la limite. Hop, je vais me connecter. Et on va avoir l'interface en fait via le navigateur. Donc on peut faire évidemment des queries directement dans le navigateur, mais ici nous on va vraiment travailler sur Bloodhound. Donc voilà, c'est rien de bien compliqué. Normalement, à la première connexion, automatiquement, on va vous demander de changer le password. Donc ici, j'ai aucune interrogation, mais c'est tout à fait normal. Donc si je retourne sur Bloodhound, hop, normalement il va me dire pas de database trouvé. Alors, est-ce que j'ai pas assez? Il faut peut-être que j'attende un petit peu plus longtemps. Et voilà. J'espère que, comme tu disais tout à l'heure, le dieu des démos sera avec nous. J'ai rien prévu en backup, mais voilà, c'est bon.
De toute apparence, il est avec nous. Il y a un petit crochet vert.
Voilà. Donc, en effet, quand on démarre la base de données Neo4j, c'est excessivement lourd. Hein. Faut savoir, ça peut prendre du temps, dépendamment des ressources. Ici, je suis dans une machine virtuelle avec pas forcément énormément de mémoire, donc il est un petit peu capricieux. Mais là, ça va fonctionner. Donc ici, on va être dans l'interface de Bloodhound. Évidemment, je n'ai absolument aucune information et je peux pas vraiment uploader de fichiers Bloodhound capturés avec les collecteurs, donc Sharphound, parce que je risque de violer des NDA de mon côté, tout simplement. Mais pour les gens parmi nous qui voudraient tester Bloodhound sans forcément avoir accès à un Active Directory avec plein d'informations déjà pré-configurées, etc., il faut savoir qu'il existe. Alors si je vais sur le repo de Bloodhound sur GitHub. Il y a deux choses qui sont relativement intéressantes. On a, si vous avez des machines virtuelles, vous êtes en mesure de spinner des machines virtuelles, la possibilité d'utiliser Bad Blood. Donc en fait, Bad Blood, c'est un script PowerShell qui peut être exécuté sur un domaine contrôleur de test et qui va provisionner des groupes, des utilisateurs, des GPO un petit peu random. Donc ça, c'est sous réserve d'avoir une machine virtuelle sous la main. Alors, on peut en télécharger un sur le site de Microsoft. Ici, je vais prendre la méthode un petit peu plus rapide, qui est en fait le database generator qui est fourni par l'équipe qui gère Bloodhound. Donc, si on va dans la racine du repo, on a quelque chose qui s'appelle Bloodhound Tools. Juste ici, hop, voilà. Bloodhound Tools, c'est un petit peu désuet, je dirais. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment maintenu, mais qui fonctionne. Donc, on a Bloodhound Tools et il y a quelque chose qui s'appelle DB Creator qui va nous permettre de générer une base de données pour Bloodhound pour qu'on puisse travailler avec ou au moins tester l'outil. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc, je vais d'abord quitter Bloodhound. Je vais aller dans mon download, j'ai déjà téléchargé.
Je dois avoir un Bloodhound. T'as vraiment fait tes affrontes au dieu des démos. Fait, je pense que ça va bien marcher.
J'ai pas pris de risque de mon côté. Petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient tester cet outil de génération. Il faut savoir que la version que l'on peut cloner sur Bloodhound Tools est un petit peu buggé. Il faut aller dans les issues GitHub. Il y a quelqu'un qui propose une alternative. Alors, c'est pas le sujet ici. Je vais pas montrer comment j'ai débugué ça. Mais en fait, quand on va dans les issues de GitHub, la personne propose de télécharger un patch fix et puis qui devrait corriger le problème. Donc là, je vais juste rouler l'outil DB Creator. Voilà. C'est relativement simple, hein, il va vous demander de vous connecter à Bloodhound, pardon, à Neo4j, puisque ça va être feedé dans Neo4j. Je vais faire connect. À savoir, encore une fois, plutôt faire dbconfig quand on va runner, exécuter l'outil pour la première fois. Moi, j'ai utilisé tous les passwords et tout par défaut, donc ça fonctionne naturellement. Si c'est pas votre cas, il va falloir utiliser dbconfig. Je vais mettre même un petit domaine. On va faire un set domaine polysecure.ca et je vais faire un clear engine rate qui va commencer à provisionner la base de données. Donc ça prend quelques secondes. Puis au moins on a une base de travail pour explorer l'outil de manière assez simple et sans avoir installé tout un parc de VM. Un petit peu. Donc il va nous créer donc tout un tas de. Il va intégrer automatiquement également des attack paths. Donc des utilisateurs qui sont par exemple Kerberos Table. On va avoir aussi tout ce qui est constrained, unconstrained user. On a également des local admin, des gens qui sont autorisés à déléguer, etc. Donc je passe les détails des attaques les plus communes connues sur Active Directory et également des sessions. Par exemple, un utilisateur qui aura une session sur une machine. On en a parlé pendant le podcast. Il faut savoir aussi que pendant un temps, quand on faisait la collection justement des sessions sur les machines, il était possible de le faire avec un utilisateur classique. Aujourd'hui, avec les récentes mises à jour de la Windows 10 et évidemment Windows 11, pour pouvoir obtenir les sessions d'utilisateurs, il est nécessaire d'être soit domaine admin pour être capable de collecter toutes les sessions utilisateurs de l'infrastructure AD. Donc, bon, on a déjà plus ou moins atteint l'objectif. Ou alors, il faut être administrateur des machines. Sans ça, on n'a plus ces informations. Donc la parenthèse étant fermée, donc là, j'ai terminé de rouler mon script. Je vais pouvoir relancer mon Bloodhound. Avec peut-être un petit peu plus d'informations. Hop. Donc par défaut, Bloodhound va nous afficher les utilisateurs qui sont domaine administrateur. Si tout se passe bien, encore une fois, je croise les doigts. Oui, c'est bon. Alors, je ne sais pas si on voit bien mon écran. Donc ici, on a donc un premier graphe avec les utilisateurs qui font partie du groupe domaine admin. Donc ici, à partir de notre interface, on va pouvoir naviguer. Donc déjà dans les menus qu'on trouve en haut, on a un espèce de petit burger qui va nous afficher en fait déjà les informations de la database. Donc ici on va voir le nombre de sessions que la database contient. Donc les utilisateurs ayant une session sur des machines, les usagers, les groupes, machines, OU, etc. C'est également ici dans cette première table qu'on va pouvoir nettoyer la base de données, donc le clear database, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé un test ou un CTF, c'est ici que vous allez pouvoir notamment supprimer tout simplement la base de données pour pouvoir en importer une nouvelle. Théoriquement, lorsque vous allez faire un pen test, la base de données en fait Active Directory, enfin l'intégralité de l'AD va être capturée dans un fichier zip qui contient différents fichiers JSON qui contiennent eux-mêmes en fait les OU, les usagers, etc. Donc ici, il y a un petit bouton à la droite qui est Upload Data. Donc on clique dessus, ici on va pouvoir ouvrir notre fichier zip pour pouvoir feeder Bloodhound avec les informations qu'on a collectées. Petite note sur ces fichiers-là, il faut savoir qu'aujourd'hui, Bloodhound est décliné en plusieurs versions. On a les versions un petit peu obsolètes. Puis aujourd'hui, on est rendu à la 4.3. J'ajoute d'ailleurs un petit point. Quand vous installez Bloodhound sur Kali, vous n'avez pas forcément la dernière version de Bloodhound disponible. Par exemple, aujourd'hui, on est à la 4.3 qui a été release la semaine dernière. Ici, j'ai installé ma Kali il y a peut-être une semaine et je roule, je pense, encore la 4.2. Oui, voilà. Version 4.2. Alors, c'est pas grave. Cependant, certains collecteurs ne sont pas compatibles avec le corrélateur qui est Bloodhound. Donc, si vous collectez, par exemple, de l'information avec un collecteur qui date de la version 3.0, les informations vont pas être digestible, si je puis dire, par les versions plus récentes de Bloodhound. Et c'est l'inverse est également vrai. Donc c'est-à-dire que des informations plus collectées avec une version plus récente du collecteur ne seront pas forcément digestibles par des versions antérieures de Bloodhound. Donc c'est juste faire peut-être attention à ça, toujours garder les mêmes versions. De toute façon, lorsqu'on va télécharger Bloodhound depuis le repository, l'équipe qui développe l'outil fournit également les collecteurs à jour qui permettent de ramasser l'information. Le seul outil qui n'est pas fourni, c'est la version Python, puisqu'on a des collecteurs en PowerShell, en C#, mais il y a également une version Python qui n'est pas officielle, mais qui est très très bien maintenue et que j'utilise de manière assez régulière. Alors c'est plus facile, je dirais, d'utiliser celle-ci. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, sur ce, ici, on va avoir donc les informations à propos de la base de données. On va également avoir un onglet juste à côté qui est l'information du node. Donc, c'est-à-dire que quand je vais cliquer sur un nœud, donc ça peut être un utilisateur ici, je vais avoir les informations relatives, par exemple, à cet utilisateur. Donc, le dernier changement de password, la dernière fois qu'il s'est connecté. Est-ce que c'est un compte activé? Ça peut toujours être des informations intéressantes avant de tenter, par exemple, de brute forcer le password d'un administrateur non actif. C'est inutile. Donc, ce genre d'informations, on va également avoir tous les groupes membership, les droits d'admin locaux. Donc, évidemment, ici, je suis sur un DA, un domaine admin. Donc, je suis admin un petit peu partout par défaut. Également les machines vers lesquelles je peux faire du remote desktop. Là, on a les constraint delegation privileges également. Tous les objets sur lesquels j'ai un contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, par exemple, si j'ai un generic all qui me permet, par exemple, d'avoir les pleins pouvoirs sur une OU, un groupe, etc. Également, les contrôles qui m'impactent. Le dernier, qui est probablement le plus intéressant et sur lequel les gens le cliquent le plus, c'est Analysis. Donc ici, en fait, ce sont toutes les requêtes par défaut qui permettent de découvrir des informations sur les chemins d'attaque Active Directory. Donc ceux-là sont déjà fournis dans l'outil Bloodhound. Donc on a les classiques. Ici, on a bien sûr la query qui a été faite par défaut, c'est le Find All Domain Admin. Donc si je reclique dessus, je retourne sur la même page. On a le Map Domain Trust qui permet, dans le cadre où vous auriez une forêt avec plusieurs domaines, sous-domaines, de voir les relations en fait de confiance entre les différents AD. Ici, c'est un AD unique, un domaine unique, donc je n'aurai pas d'informations. On a également les Find Computer with Unsupported Operating System. Donc ça, c'est très intéressant pour aller chercher, par exemple, les Windows XP. Donc je vais pas tous les faire, il y en a quand même une petite quantité, je peux en prendre un au hasard par exemple, ce qu'on aime bien, on a le Find ISREP for Stable Users, donc ça c'est les fameux droits alloués à un usager qui nous permettent de récupérer un hash sans avoir d'utilisateur valide sur le domaine, et sinon on a le classique Kerberos Stable Accounts, donc qui nous permettent donc de récupérer les d'usagers qui sont associés à un SPN, donc à un compte de service. Là, si je clique dessus, je vais avoir voilà quelques utilisateurs. Donc, si j'ai un compte, évidemment, sur le domaine, je serais capable de récupérer un hash que je pourrais casser offline, par exemple, sur cet usager-là. Si je clique dessus, je peux avoir ces informations. Donc, on voit qu'il a deux sessions actives. Donc, les sessions, c'est là où il est authentifié sur un ordinateur. Donc, si je clique dessus, normalement, je vais automatiquement avoir les informations. Alors, ce sera visible. Donc, par exemple, je suis connecté ici sur un ordinateur qui s'appelle Comp 00301 et un autre 00445. Et ici, on a la relation, je vais zoomer encore un petit peu, hop, as session. Là, quand on a ça, c'est sûr que c'est peut-être pas très clair pour quelqu'un qui fait pas forcément du pen test day to day, mais l'avantage de Bloodhound est une facilité que peu de gens connaissent ou n'utilisent pas. C'est quand on clique droit sur un lien, on a le help. Et en fait, le help vous explique ce que c'est. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'il vous explique également comment on peut abuser de ce lien. C'est-à-dire, on a une relation entre un utilisateur et une machine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, as session? Je sais pas trop. Donc là, on clique dessus. On va avoir une petite description générale de ce que c'est. Et on a un onglet abuse qui nous explique, voilà, qu'est-ce que ça implique que cet utilisateur ait une session sur cette machine. De manière générique, hein, je vais pas détailler ce qui est écrit, mais c'est par exemple si vous avez, vous, avec un autre utilisateur, des droits admin sur la machine sur laquelle cet utilisateur a une session, on pourrait éventuellement pouvoir voler ses credentials, son HNTLM, usurper son identité. Donc, on a tout ce qui est token impersonation. Donc ça, c'est relativement intéressant. Puis on a également, alors je pense que ça a été ajouté récemment, un onglet OPSEC, qui nous explique aussi qu'est-ce que ça implique d'exploiter cette problématique. Donc là, par exemple, on voit en effet un produit, un EDR serait en mesure de voir qu'on tente d'injecter des choses dans LSAS ou de récupérer des informations depuis LSAS. C'est relativement intéressant. À savoir que toutes les descriptions des liens qu'on a entre les différents objets sont dans la documentation Bloodhound. C'est-à-dire que vous avez aller sur le wiki et tout ça c'est décrit, hein, c'est pas obligatoirement il faut regarder ça via Bloodhound, mais donc relativement intéressant. On a également autre chose, si je regarde un petit peu plus près cet usager qui est visiblement Kerberos Stable, on voit qu'il a des high value targets. Alors, ça c'est un autre point qui est relativement intéressant. Donc si je regarde high value targets, c'est-à-dire toutes les OU ou groupes qui sont flagués automatiquement par Bloodarm comme high value target. Or, il y a aussi probablement beaucoup de gens qui ne redéfinissent pas ce que sont les high value targets. Il faut savoir que dans un pentest, il est vrai qu'on tente toujours d'aller vers le domain admins, mais c'est pas forcément l'objectif. Il y a peut-être un groupe custom créé par le client qui s'appelle flag par exemple, qui veulent qu'on accède ou qu'on compromette en tant que objectif du mandat. Et ça, Bloodhound, par défaut, ne sera pas capable de dire c'est une high value target. Comment fait Bloodhound pour déterminer ça? C'est juste, il va utiliser les groupes par défaut. Donc, par défaut, évidemment, il va flaguer domain admin comme high value target, il va flaguer le domaine contrôleur comme high value target, etc. Mais vous avez peut-être des objectifs différents. Ça, c'est très, très facile de le modifier. Il suffit de cliquer droit sur un objet. Et en fait, on peut le dire mark computer as high value. Donc là, automatiquement, on va pouvoir ajouter en fait à la liste des joyaux entre guillemets cette machine-là spécifiquement. Autre petit point d'ailleurs qui est très très important, lorsqu'on compromet une machine, un groupe ou un utilisateur, on a également la possibilité de faire des mark as owned. Donc, c'est des utilisateurs qu'on a compromis, enfin des utilisateurs ou des groupes ou des machines. C'est important de le spécifier parce qu'en fait, dans justement les requêtes d'analyse faites par Bloodhound, on peut dire, voilà, depuis les objets ou les groupes que j'ai compromis, est-ce que je peux atteindre quelque chose de supérieur? Est-ce que je peux faire une escalade de privilèges? Est-ce que je peux atteindre les privilèges de domaine admin? Donc, toujours penser à faire des marques user as own, par exemple, pour avoir une petite tête de mort qui s'affiche et qui indique que cet utilisateur a été compromis et qui va nous aider après dans la suite de l'analyse. Donc, c'est vrai que Bloodhound est assez magique, mais il fait pas tout seul. Donc là, si je regarde un petit peu ce qui a été affiché, donc là, je vois que mon utilisateur, qui est celui-ci, est membre d'un groupe qui s'appelle IT00232. Il est admin d'un ordinateur qui s'appelle COM00110. Et on a un domaine admin qui a une session sur cette machine. Donc on voit déjà le chemin un petit peu se dessiner. Ok, donc je suis administrateur sur cette machine. Je peux éventuellement aller exécuter du code sur celle-ci qui va aller faire un dump du LSAS, qui va éventuellement me permettre de compromettre le compte d'un DA. Donc c'est toute l'idée derrière finalement Bloodhound, c'est de dessiner en fait ces chemins d'attaque qui sont excessivement difficiles à déterminer par un administrateur Active Directory, puisque pour ceux qui ont déjà vu une interface AD, c'est très sobre, on voit des listes de groupes, des listes d'usagers, des listes d'OU. C'est quand on a des milliers de machines, c'est excessivement délicat de déterminer où est-ce qu'on a fait une erreur, où est-ce qu'on a des privilèges qui sont restés et qui ne devraient pas être là, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on recommande aux administrateurs de rouler Bloodhound. Hein, ça n'affecte en rien les performances du réseau. Hein, le contrôleur de domaine reçoit des milliers de requêtes de toute façon tous les jours. Donc de faire une petite exécution de Bloodhound, enfin de Sharpound sur son AD, peut permettre de découvrir ce genre de problématique.
Ouais, c'est d'ailleurs quelque chose que je recommande beaucoup. J'ai certains clients qui ont adhéré à cette recommandation-là, qui se sont déployés un environnement comme ça, qui leur permet justement de raffiner leur sécurité d'AD, justement pour ne pas échapper des morceaux qui auraient été impossibles à visualiser autrement que par ça, parce que comme tu dis, c'est assez complexe. Là, ça, c'est un petit, mais quand on parle d'un setup de plusieurs dizaines de milliers d'objets, on est dans un univers beaucoup plus compliqué à manœuvrer et beaucoup plus difficile à trouver ces petites erreurs-là.
Absolument. Il existe également une version, alors je n'ai jamais utilisé une version entreprise de Bloodhound, qui semble être un petit peu plus avancée, permettant de gérer des environnements beaucoup plus gros. Mais pour être honnête, j'ai jamais testé. Peut-être qu'un jour j'aurai un retour d'expérience là-dessus, à savoir si c'est vraiment intéressant pour quelqu'un de faire usage de la version payante, hein, puisque c'est un service payant. En tout cas, dans des AD contenant, je pense, quelques milliers de machines ou quelques milliers d'objets, je dirais ça peut suffire. Ici, par exemple, j'ai généré, je pense que par défaut c'est quelque chose comme 500 objets, donc c'est intéressant déjà en petite moyenne entreprise. Et ça s'exécute très bien sur une petite VM. Je vais peut-être aborder également un point intéressant, c'est comment aller plus loin avec Bloodhound. Alors c'est vrai qu'on a toutes ces default queries, donc ici tout ce qui est privilège dangereux. On va avoir tout un tas de requêtes prédéfinies, par exemple ici. Trouver les ordinateurs sur lesquels les domain users peuvent lire les passwords labs, les passwords d'administration des machines, tout ce qui est Kerberos Interaction. Donc là, on a regardé ça tout à l'heure avec tout ce qui est Kerberos Table ou SREP Cross Table Users, les shortest paths ici, c'est-à-dire comment d'un point A à un point B je peux atteindre, partant d'un point A, comment je peux atteindre, par exemple, des privilèges de domaine administrateur. Donc tout ça, c'est quand même une liste relativement limitée. Il est important de pouvoir complémenter un petit peu Bloodhound avec ce qu'on appelle les custom queries. Il en existe des centaines, si ce n'est des milliers, sur GitHub et Internet si vous cherchez custom queries Bloodhound. Il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup, qui sont par exemple est-ce que tu peux me lister les utilisateurs qui ont comme description le mot password ou pass? Ça, c'est pas dans la liste par défaut. On a également quelque chose qui est intéressant. Je vais faire peut-être la petite démonstration avec celui-ci. C'est trouve-moi les usagers qui ont un password inchangé depuis plus de 90 jours. Donc c'est littéralement du copier-coller. On en a rapidement parlé pendant le podcast sur Bloodhound, mais le langage utilisé s'appelle Cypher. C'est utilisé par Neo4j. Je suis pas particulièrement fan d'apprendre le query language. Il est relativement simple, hein, enfin d'apparence simple, mais j'ai pas été plus loin que de faire du copier-coller des gens qui sont plus intelligents que moi. Et ça ne manque pas, je pense. Donc ici vous avez le petit tab qui s'appelle Raw Query, dans lequel on va pouvoir entrer la query. Donc ici c'est un peu un select find, enfin select where, etc. Ça ressemble évidemment beaucoup à du SQL classique. Ici je vais simplement regarder les usagers, je vais lui demander de me retourner les utilisateurs qui ont un password qui n'a pas été changé depuis plus de 90 jours. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas trop parce que ça peut prendre du temps. Il y en a quelques-uns. Donc, si je clique sur un, on va quand même valider qu'il m'a sorti quelque chose de valide. Donc, ici, on a password last change 2022. Donc, on est plutôt bien. Alors, c'est sûr que c'est des one-time queries. Ce qu'on peut faire, c'est en ajouter dans Bloodhound. Donc, c'est très, très simple. Ici, dans custom queries, on a un petit crayon juste à côté. Je peux ajouter ma query. Je vais mettre PWD last change, on va mettre plus 90. Ici, je peux coller ma query. Je peux aussi sélectionner une catégorie, donc c'est les catégories qu'on voit à la gauche. Donc, je peux le mettre dans Kerberos, short espace. Ici, je vais mettre, je vais mettre polytest. Hop, voilà. Et je fais un save. Et ici, on va avoir ma query qui est sauvegardée. Donc, pour toutes les exécutions, c'est pas juste dans cette session-là, pour toutes les exécutions suivantes de Bloodhound, on va avoir cette query de disponible. Donc, je vais pouvoir cliquer dessus et ça va me réafficher mes utilisateurs. Donc, super simple à utiliser. Il en existe des tonnes. Si il y a des gens qui se posent la question de où tout ça s'est stocké, c'est dans votre home. Je vais peut-être juste faire un petit zoom pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc, dans votre home folder, vous avez normalement un point config Bloodhound. Et en fait, Bloodhound va créer un fichier qui s'appelle Custom Queries, qui doit être quelque chose comme ça. Voilà, ici, on a un Custom Queries.json. Donc, si je fais un cat dessus, normalement, voilà. On voit password last change, plus 90, dans la catégorie polytest, etc. Alors, tout est stocké dans ce fichier-là. Donc, quand vous allez vouloir ajouter des custom queries, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez cloner le repository GitHub, vous allez copier-coller le custom queries JSON dans le folder .config/bloodhound et ce sera disponible, en fait, dans l'interface de Bloodhound. J'ai pas mal fait le tour, je pense, de mon côté, Nicolas Ulrich. Je suis désolé, j'ai l'impression de faire un monologue en plus quand c'est un screencast, plus que quand c'est un podcast. Je m'en excuse.
Aucun souci. Non, il n'y a pas grand chose de plus que ça. Mais ça, c'est parce que c'est un démo plus stagé. Ça avait été un démo vivant. Ça aurait été peut-être un peu différent, effectivement. Ça aurait été un peu plus interactif. Où on aurait pu faire ça, mais très intéressant parce que dans le fond, c'est les bases utiles pour utiliser ce genre de ce produit-là, qui est très utile, que j'ai eu à déployer beaucoup, à déployer. Je l'ai utilisé et j'ai incité certains clients à le déployer aussi pour leur usage interne, pour qu'ils puissent continuer dans le temps à suivre et à voir, parce que les changements sont assez massifs dans les AD. C'est pas grand chose pour faire un changement qui va nous amener à ouvrir un chemin justement de ceux qui permettent de voir le chemin le plus rapide pour atteindre le domaine admin, ce qui est généralement le drapeau qu'on essaie de ramasser le plus vite possible et que les malveillants aussi vont essayer de ramasser, fait qu'eux autres, mêmes vont aller chercher ce genre de façon plus subtile, mais heureusement ou malheureusement, ça ne sait pas comment on regarde ça, pour aller chercher ce genre d'informations-là, mais de l'avoir en main, puis justement de couper les ponts avant que quelqu'un d'autre les emprunte, est toujours d'une très grande utilité.
Oui, absolument. Puis, je pense que de toute façon, de manière générale, Bloodhound est quand même un outil, en plus d'être excessivement utilisé, il est très, très simple à utiliser. Je fais une rapide démo de comment ça fonctionne, mais je pense pas que... j'ai appris grand chose, en tout cas aux auditeurs de PolySecure. C'est quand même quelque chose d'assez classique. Je pense que les deux key points que j'ai et que j'aime toujours à rappeler peut-être aux gens plus jeunes ou qui commencent justement le test d'introduction, c'est surtout cette fameuse feature help dans Bloodhound qui permet en fait de comprendre une relation entre un objet A et un objet B. Ok, j'ai comme une connexion qui s'appelle as session ou delegate to ou generic all. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est vraiment faire un clic droit help. On a littéralement la réponse du comment exploiter ce lien là si c'est possible. Et puis c'est les custom queries. J'avoue que c'est quelque chose que moi personnellement j'utilise énormément puisque il faut être honnête. On nous offre un panel quand même intéressant de requêtes par défaut dans Bloodhound. Mais il y en a beaucoup qui sont très intéressantes et des classiques comme des utilisateurs qui n'ont pas changé de mot de passe depuis un an. Je vais sortir une liste de ces utilisateurs. Je vais pouvoir également faire peut-être un password spraying sur ces usagers-là puisque ils n'ont pas changé depuis très longtemps leur mot de passe. On a également les descriptions des usagers. C'est un grand classique qu'on voit malheureusement encore trop souvent où on a des usagers de test avec des droits admin et puis dans la description, c'est écrit le mot de passe et password 1, 2, 3. C'est du vécu, c'est terrible. Et puis, c'est un DA facile et c'est dommage. Donc oui, pensez à utiliser les requêtes custom. Encore une fois, il en existe des tas sur Internet. Je pense juste taper dans le moteur de recherche favori et puis vous allez trouver de quoi. Ou à demander à ChatGPT de vous en écrire une, peut-être, vu que c'est un peu la mode.
Wow, c'est pas des fois, puis il faut faire attention parce que ChatGPT, des fois, il va halluciner un peu, fait que faut pas nécessairement se fier comme étant une ultime vérité ce qui sort de là. Mais bref, c'est un complément des outils pour un administrateur de domaine ou tout le monde qui travaille en sécurité dans un contexte de domaine. Il touche un peu Azure aussi à certains égards aussi. Donc aussi, là, on est de plus en plus, on est en train de migrer. Ces éléments-là deviennent aussi intégrés dans l'interface de visualisation. Puis c'est d'autant plus facile de travailler dans un environnement comme ça, justement, pour trouver l'information juteuse qu'on a absolument besoin pour faire notre travail. Puis ça remplace. Puis tu sais, moi, j'ai des plus vieux outils dans le temps où on n'était pas dans des Active Directory où ça commençait là, avec des IANA de ce monde, de très vieux outils qui réussissaient à faire un peu les mêmes genres de choses. Moins sophistiqué. C'est le fun qu'il y ait migré et qu'on a maintenant d'autres outils qui sont adaptés absolument. À la modernité. Là.
Je pense à quelque chose aussi, peut-être un petit trick ou tips. C'est vrai qu'ici, je n'ai pas forcément énormément de machines ou d'usagers. L'interface peut être très longue à charger, la base de données est relativement lente. Hein. Après, encore une fois, il est toujours possible d'ajouter des ressources à la machine que vous utilisez. Mais il est possible de sortir du texte directement via l'interface web. Donc, par exemple, ma fameuse liste d'usagers qui n'a pas changé son mot de passe depuis plus de 90 jours, au lieu de sortir un graphe de 10 000 objets qui va mettre des millions d'années à charger dans ma petite VM, je peux faire des queries directement dans l'interface. Donc, je vais juste faire un copy-paste de ma requête ici. Appuyer sur le bouton play. Déjà, on voit que ça rame un petit peu, un peu fatigué. Il est temps qu'elle retourne en veille. Parce que ça a fonctionné quand même. Ça devrait. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ah là 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 là.
Ah, une erreur de syntaxe.
Ah non, c'est ma faute. Non. C'est ma faute. Voilà.
Mais c'est ça, c'est l'autre volet, c'est parce que puis c'est ça qui est important, qu'on a peut-être davantage parlé dans le premier épisode, c'est qu'il y a quand même une base de données en arrière dans laquelle l'outil sert à visualiser, mais on est capable, justement, quand on a fait la démonstration, d'utiliser de façon directe les différents éléments qui sont associés, qui sont quand même présents dans
l'interface. C'est vrai que on avait parlé de cet abus de langage, Bloodhound, Sharpen est vraiment le collecteur. Tandis que Bloodhound va être notre agrégateur. Tout est fait en électron, c'est relativement lourd, mais tout est faisable directement sur la base de données Neo4j. Ici, donc, j'ai mes petits nodes. Là. C'est vraiment un abstract de ce qu'on voyait dans Bloodhound. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je peux récupérer en fait directement, soit sous forme de table JSON, soit sous forme de texte. Donc ça, c'est pratique dans le sens où je vais pouvoir faire un grep, par exemple, sur le champ username, name, pardon, et faire mon password spraying sur les utilisateurs qui n'ont pas changé leur mot de passe récent. Donc ça peut être également une alternative en disant, au lieu d'avoir cette base de données, cet affichage graphique, est-ce que je peux pas plutôt avoir directement du texte? Alors c'est également possible. Hein, on peut faire un export graph. Alors je ne sais plus. On peut l'exporter en image, donc en PNG pour agrémenter vos nombreux rapports, ou l'exporter en JSON, hein, qui est un format qu'on peut facilement requêter anyway. Mais c'est également possible dans l'interface web. Donc je m'excuse, je me suis éparpillé, mais juste peut-être un dernier mot là-dessus.
Ah, aucun souci. Mais je te remercie énormément, très intéressant. J'espère que pour ceux qui n'étaient pas encore familiers avec cet outil-là, ça va donner justement la chose pour aller l'explorer, les jouer avec, puis justement le fait que tu as démontré qu'il y a des données utilisables sans devoir avoir des données de production et éventuellement masculer avec des données de production pour être capable de travailler avec ces outils-là, puis d'adhérer avec ce genre, avec ces bonnes pratiques-là pour améliorer la sécurité de tout le monde. Je te remercie énormément.
Merci encore. Puis je pense que le next step, ce sera qu'est-ce qu'on fait avec ces infos? Prochain épisode, éventuellement.
Ça pourrait être un prochain épisode.
Je te remercie beaucoup pour ton temps.